I know you're busy, so I'll make this quick.
Je sais pas vous, mais j'ai une patate, moi, ce matin.
Bon, faut ce que vous avez déjà entendu, cette musique de sauvage.
One, two, three, four.
Spotzel, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 7, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, j'ai tenté de discuter avec Steve Chenel, ex-cycliste professionnel, spécialiste du cyclocross et team manager. Malheureusement, la technique s'est mise en travers de notre chemin et Steve avait beaucoup de mal à entendre mes questions. Cela m'empêchait également de rebondir sur ses réponses, à la fois précises et passionnantes. Finalement, l'interview s'arrête un peu abruptement, de guerre lasse. J'ai finalement découvert que le logiciel d'enregistrement dégradait ma voix, il me faudra donc ajuster ce détail pour les épisodes suivants. Sans plus attendre donc, Steve Chenel.
Oui.
Oui, tu es prêt? Ça y est.
On est tout bon, pas de soucis. Par contre, ça résonne pas mal. Toi, t'es dans une grotte.
Je suis dans un hangar à avion, précisément.
Est-ce que tu m'entends bien pour toi, de ton côté, sur tout ça?
Je t'entends très très bien.
Et
je suis dans mon nouveau bureau et c'est vrai que ça résonne pas mal. J'ai pas eu le temps de le rembourrer, tu sais, avec des trucs d'œufs. Donc ça résonne un petit peu, mais ça va, c'est quand même audible. Bien. Et bah déjà,
Par contre, ça hache un petit peu. Hein. Je t'entends, ça hache un petit peu. Hein.
D'accord. Bah écoute, on va essayer de faire au mieux. De toute façon, moi, on ne va pas beaucoup m'entendre, donc ce n'est pas très grave.
Ok, ça marche.
Voilà. Steve, déjà, merci de m'accorder un petit peu de temps, parce que je sais qu'en ce moment, c'est un petit peu la course pour toi. Est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter? Qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? Et voilà.
Alors, je m'appelle Chenel Steve, effectivement. Je suis pas mal occupé en ce moment, puisque j'ai 4 casquettes sur la tête. Alors, la casquette prioritaire, la casquette de numéro 1, bien souvent, qu'on a tendance à oublier, c'est que je suis donc père de famille de 2 enfants. Un garçon de 11 ans, une petite fille de 8 ans, et en l'occurrence, c'est ce qui m'occupe quasiment l'intégralité de mon temps, même si sur le papier, c'est pas la casquette prioritaire. La casquette numéro 2, c'est que je suis consultant à la télévision, je travaille à Eurosport depuis maintenant 4 ans. Suite à l'arrêt de ma carrière professionnelle, j'ai tout de suite trouvé un autre travail qui me permet aujourd'hui de continuer à gagner ma vie et à gagner ma croûte grâce au cyclisme, parce que, je vais le dire par la suite, mais aujourd'hui, c'est mon seul revenu. Ma casquette numéro 3, c'est que je suis aussi team manager, responsable du team Chazal Canyon 3G Immobilier, donc la nouvelle appellation pour la saison 2019-2020. Je suis à la recherche de partenaires techniques, de financement pour pouvoir avancer et faire avancer mon équipe au plus haut niveau. Et la quatrième casquette, c'est celle de coureur, puisque donc jusqu'au 1er septembre, je suis le team manager, j'ai envie de dire, officieux. Et ensuite, de manière officielle, le team manager, c'est mon petit frère, c'est Raymond Chenel. Et moi, je serai donc coureur à plein temps pour essayer d'aller décrocher un nouveau titre de champion de France en janvier 2020 à Flamanville. Donc voilà, beaucoup, beaucoup d'occupations. Et je suis ambassadeur également de pas mal de marques, Canyon, Mavic. Donc du coup, il y a pas mal de shooting photos et de films à réaliser. Et comme là, vendredi, j'arrête le commentaire pour le Tour de Slovénie. Mais dans la foulée, je vais dans l'Aveyron pour faire la présentation presse du nouveau matériel Mavic pour le gravel.
Cool. Mais ça, tu veux. Soit tu nous en parleras, soit, en tout cas, j'ai hâte de voir un petit peu ça. Est-ce que tu peux revenir sur ta carrière sur route? Parce que tu dis, j'ai arrêté ma carrière, mais pour les malheureux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux préciser un petit peu tout ça? Et 4 ans déjà?
Oui, je suis passé pro en 2006, effectivement, et ma carrière s'est arrêtée en 2015, avec malheureusement une dernière année un peu compliquée au sein de la formation Cofidis. J'ai réalisé de plutôt belles performances, j'ai remporté une étape des 3 jours de la Panne, j'ai remporté le circuit de Lorraine, j'ai terminé 2 fois dans le top 15 de Paris-Roubaix. Je suis un ancien spécialiste des classiques, mais mon plus beau fait d'armes, c'est en cyclocross, puisque j'ai été champion de France en 2018, en élite. J'ai terminé 4e des championnats du monde en 2006, et dans les catégories de jeunes, j'ai été médaillé de bronze au championnat d'Europe, 4e au championnat du monde, donc comme je l'ai dit, et voilà. Mais maintenant, c'est vrai que depuis la fin de ma carrière professionnelle en 2015, j'ai la vraie casquette de spécialiste du cyclocross, et finalement, c'est depuis cet arrêt de carrière professionnelle que je m'éclate et je fais vraiment ce qui me plaît, parce que j'étais routier par substitution, tout simplement.
Ouais. Mais ça, on va en reparler un petit peu, parce que tu as suivi l'actualité sur route, Évidemment, et on parle beaucoup de cyclocross en ce moment et des bienfaits pour les routiers, donc ça, on va y revenir un tout petit peu plus tard. Et si tu veux bien, pour nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est vraiment la préparation. Et là, tu es vraiment occupé avec toutes tes activités, avec les enfants, etc. Et quand je t'ai appelé il y a quelques jours, tu m'as dit, attends, je suis en train de rouler, on se rappelle dans une heure. T'en es où actuellement de ta préparation? Et ça veut dire quoi la préparation de Steve Chenel au mois de juin? C'est quoi en ce moment?
Bah, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume. C'est quasiment même 95% de mon travail, c'est de faire du volume en vélo. Donc, du volume, moi, c'est ce qu'on appelle du long lent. C'est faire une bonne base foncière, faire de très, très belles fondations pour qu'arrivé au mois de septembre, la machine soit prête et l'organisme puisse supporter les charges de travail intensives que mon entraîneur va me donner. Donc, effectivement, le mois de juin, c'est un mois assez important. Où il faut que je m'astreigne à faire entre 70 et 80 heures de vélo. Donc, c'est des semaines de 20 heures, on va dire, hein, pour la faire courte. Ensuite, au mois de juillet, l'idéal serait de faire à nouveau 80 heures. Malheureusement, depuis 3 ans, c'est très, très compliqué avec le Tour de France, puisque, comme j'ai dit, c'est mon seul revenu. Donc, je suis plutôt autour des 60 heures. Donc, je me lève très tôt le matin, je travaille tous les après-midi, plus les transferts. Donc, forcément, c'est plus compliqué de s'astreindre à des sorties de 4-5 heures. Et ensuite, le mois d'août, c'est pareil, c'est entre 80 et 90 heures. Donc, c'est un trimestre très, très important où les week-ends, quand il y a des courses et surtout quand j'ai le temps, je vais me faire quelques courses, quelques critériums, quelques compétitions de VTT pour agrémenter cette base foncière de quelques intensités et surtout de plaisir. Parce que moi, je suis un vrai compétiteur, je ne fais pas du vélo pour faire du vélo, je fais du vélo pour faire de la compétition. Donc, les sorties entre copains, j'adore ça, mais l'idéal, c'est d'avoir un dossard et de faire la course.
Quand tu fais tes sorties, tes semaines à gros volume, les sorties représentent combien d'heures ou combien de kilomètres?
Bah, comme je l'ai dit, c'est à peu près 20 heures semaine. En gros, une semaine de volume, c'est 20 heures semaine. Donc, ça peut être 4 fois 5 heures, comme ça peut être 4 heures, 4 heures, 2 heures, et puis rien, et à nouveau 4 heures, 4 heures, 2 heures, ou 4, 2, 4. Ça dépend vraiment de la météo, ça dépend vraiment du temps que j'ai et qui appartient. Après, ça m'arrive aussi de le faire en deux fois, de faire du pic quotidien, de faire 3 heures le matin, 3 heures, 3 heures et demie le matin, et de refaire 1 heure et demie le soir, ce qui porte à 5 heures la journée. Donc, voilà, mais ça dépend vraiment de plein de choses. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui posent la question, ouais, mais quand ton entraîneur, machin, mais contrairement à tout ce qu'on peut lire dans la presse ou à tout ce qu'on peut laisser croire, l'entraînement, c'est au jour le jour et il n'y a quasiment rien de planifié. La seule planification que j'ai, c'est de faire du volume, du long lent et de faire les comptes à la fin du mois avec voilà l'objectif de faire 80 heures. Donc, c'est à moi de gérer mon emploi du temps, à moi de gérer en fonction de la météo. Bien souvent, les entraîneurs se disent entraîneurs en allant faire à leur athlète 3 heures le mercredi et repos le jeudi, marqué sur un bout de papier le lundi. Or, si le mercredi il pleut et que le jeudi il fait beau, je vois pas pourquoi on n'inverserait pas. Donc, voilà, moi je suis plutôt un coureur, on va dire, à l'ancienne.
D'accord. Récemment, j'ai vu sur ton compte Insta, tu présentais ton nouveau VTT, à Canyon donc, et tu précisais, alors j'ai peut-être pas les mots exacts, super utile pour les séances de PMA. Alors, ces séances de PMA, à quoi ça ressemble pour un cyclocrossman?
L'objectif, c'est justement de réussir à se faire mal pendant, on va dire, un exercice de 5 à 10 minutes, chose qui est compliquée à faire sur la route parce qu'il y a souvent les feux ou un stop ou un rond-point, etc., etc. Et puis surtout, on se rend compte que l'effort du VTT, c'est un effort qui est plutôt en fréquence de pédalage. Donc, il y a double objectif justement pour faire ces séances de PMA. C'est de monter très haut en intensité, justement en puissance maximale anaérobie, et de pouvoir le faire en tournant les jambes à des vitesses plutôt faibles, comme ça se ferait en cyclocross quand on est dans la boue et qu'on est à 20 à l'heure. Donc c'est ce qui se rapproche le plus du cyclocross. Et puis il y a un côté ludique, parce que justement en VTT, il y a ces exercices à faire, et derrière, il faut garder la lucidité pour faire une belle descente, ou pour pouvoir justement passer des obstacles, des cailloux, et là-dessus, les Vosges, c'est vraiment un super terrain de jeu. Donc, c'est pour ça que j'ai adopté le VTT en préparation parce que je me rends compte que y a plein 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 de choses qui sont similaires au cyclocross et qui sont complémentaires à la pratique de la route, quoi, tout simplement.
Et ça veut dire qu'après, pendant vraiment la période de préparation, tu vas faire moite moite VTT cyclocross ou tu vas davantage prendre ton cyclocross ou davantage ton VTT?
Non, non, c'est du 90% route et 10% VTT seulement. Le VTT, j'utilise beaucoup quand il fait un mauvais temps, parce que effectivement, faire 2 heures sur la route, c'est bien plus emmerdant que de faire 2 heures de VTT. La charge de travail est pas pareille. Je parlais de volume tout à l'heure et de long lent et de coureur à l'ancienne. Mais malgré tout, je comptabilise pas mal de choses. J'ai mon entraîneur qui gobe toutes mes données, puissance cardiaque, etc., etc. Et en termes de charge de travail, en TSS, comme on appelle ça, ouais. Et ben, on se rend compte que le VTT, c'est un excellent outil pour progresser, pour travailler. Et effectivement, un petit peu à l'image voilà, d'une séance de course à pied qui durerait 3 quarts d'heure et qui équivaut entre guillemets à 2 heures sur la route, le VTT, c'est quasiment une fois et demi plus que la route, donc c'est plutôt sympa.
Ok. À ton avis, est-ce que l'explosion de Mathieu Van Der Poel ou de Wout Van Aert sur la route va provoquer un retour des coureurs, enfin un retour des routiers dans les sentiers? Et est-ce que c'est facile de cumuler une saison de cross, une saison de route, ou est-ce qu'il faut un petit peu adapter quand même le cross pour des routiers?
Non, bien sûr, il faut adapter. Aujourd'hui, on se rend compte que les saisons sont de plus en plus longues et difficiles. Le niveau s'est considérablement élevé, donc on est sur du très très haut niveau avec des groupes de coureurs qui sont très très homogènes. Mais c'est vrai que le fait que Van Der Poel et Van Aert dominent la discipline et dominent aussi leur sujet sur la route, montre qu'il est tout à fait possible de faire du cyclocross et de la route avec un programme adapté. Et moi, ce qui me plaît le plus chez Van Aert et Van Der Poel, c'est qu'en fait, leur épanouissement personnel, tout comme leur épanouissement sportif, passe par la pratique du cyclocross. Et c'est vrai qu'en France, on s'en fout complètement de l'épanouissement du coureur. Et on s'étonne que les coureurs n'ont pas le sourire ou se sentent pas bien. Et je crois qu'à un moment donné, il faut aussi savoir écouter le coursier, savoir ce qu'il en dit, essayer d'adapter au maximum sa pratique. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas que la route. Alors effectivement, en Belgique, c'était ça. Et c'est plus facile pour eux parce qu'il y a une vraie... Il y a un vrai engouement autour de la discipline. Il y a de l'argent, il y a des sponsors qui s'intéressent, il y a des retransmissions télévisuelles. Mais des coureurs comme Quentin Jauregui, comme Clément Venturini, comme Fabien Doubet, comme Clément Russo, c'est des coureurs qui sont pros sur la route, qui se revendiquent cyclocrossman, mais qui malheureusement, de par leur employeur, ne peuvent pas faire du cyclocross. Et j'espère que Van Der Poel, Van Aert va ouvrir la voie et montrer à tous les pratiquants de cyclocross que justement, il faut faire du cyclocross pour être épanoui et pour être performant sur la route aussi. Hein.
Alors, justement, d'où viennent un petit peu les réticences des routiers et même des managers aussi d'équipe? Pourquoi ne pas laisser un Venturini s'exploser en cyclocross? Peut-être qu'il serait aussi plus heureux, comme tu dis.
À la limite, c'est même pas trop un problème d'équipe ou un problème de management des patrons d'équipe qui ne voudraient pas. C'est qu'en fait, on a un souci aujourd'hui, et c'est pour moi le plus gros souci, c'est qu'en fait, la saison route dure plus de 10 mois. Aujourd'hui, elle démarre en Argentine le 15 janvier, elle se finit, j'ai envie de dire, en Chine aux alentours de début novembre. Et du coup, on se rend compte que les saisons de route sont de plus en plus longues, il y a de plus en plus de courses, le calendrier est de plus en plus fourni, on voit des équipes qui sont sur 3 voire 4 fronts, et l'UCI en fait veut même carrément réduire le nombre de coureurs dans les équipes. Du coup, la partie préparation, la partie plaisir, qui était la pratique du cyclocross, ou alors justement peut-être la pratique de la piste ou autre, maintenant n'est plus possible d'un point de vue physique, d'un point de vue physiologique et surtout d'un point de vue psychologique, parce que c'est pas possible d'enchaîner 10 mois de route et 2 mois de cyclocross. À un moment donné, il faut aussi se reposer la tête, et c'est vrai que on voit mal l'équipe de Vincent Lavenue, par exemple, laisser Jauregui et Venturini faire l'action de cyclocross, demander à ce qu'ils se reposent au mois de février, alors qu'au mois de février, il y a déjà des courses où ils seront sur 3 fronts. Et ce n'était pas du tout le cas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, Paris-Nice, c'était une course de préparation. Les coureurs arrivaient sur Paris-Nice avec 5 kilos de trop. Or, aujourd'hui, à Paris-Nice, tout le monde arrive à flûter comme des chiens de chasse, avec presque 10 à 15 courses dans les jambes. Donc, c'est plus possible. C'est plus possible de s'éclater en cyclocross. C'est plus possible d'utiliser le cyclocross comme préparation. C'est des stages, mois de novembre, préparation du matériel au mois de décembre, des stages en Espagne avec déjà des intensités, etc. sur la route pour pouvoir débuter la saison dès le mois de janvier avec un collectif fort et une préparation physique qui a été maîtrisée. Et en fait, Van Der Poel et Van Aert sont géniales. C'est génial, c'est absolument fantastique ce qu'ils font parce qu'ils sont en train de redistribuer les cartes en montrant qu'en faisant du cyclocross, Wout Van Aert, deuxième course de l'année, Milan-San Remo, il arrive pour la gagne. Alors que dans la tête de tous les managers, de tous les entraîneurs, la meilleure préparation pour Milan-San Remo, c'est Paris-Nice ou Tirreno-Adriatico. Et faux, faux, c'est possible de s'éclater durant l'hiver et être performant début de saison sur la route.
En plus, j'ai regardé un petit peu les actualités cet après-midi. J'ai découvert également que Thunart, qui est un petit peu le troisième homme de la saison, lui aussi marche pas si mal que ça sur la route. Donc peut-être que ça va donner des idées à d'autres, et même à des coureurs pas forcément des pros, mais peut-être aussi à des coureurs plus modestes, les régionaux, les nationaux, les deux, les trois, d'aller faire un petit peu de sentier l'hiver au lieu de taper des bornes au mois de janvier où on sky. Bah, c'est peut-être pas une mauvaise idée aussi d'aller faire une heure d'intensité le dimanche après-midi avec les potes.
C'est pas du tout une mauvaise idée, c'est même justement une super idée. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, en plus du travail physique et intensif et psychologique, le cyclocross, c'est une vraie école de maniabilité et de technique. C'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais je suis désolé, Chris Froome, il tombe souvent parce qu'il ne sait pas faire de vélo. C'est un garçon qui n'est pas technique, qui n'arrive pas à sauter un trottoir. La pratique du cyclocross lui permettrait d'être beaucoup plus à l'aise dans un peloton, de savoir sauter un terre-plein, et à l'image d'un Julien Lafilippe qui fait des descentes ou un Peter Sagan, c'est des garçons qui sont super agiles sur le vélo, mais qui sont de l'école du cyclocross. Donc c'est un ensemble qui fait que oui, je suis un pur défenseur de la discipline, mais en même temps je suis quelqu'un d'assez observateur et d'assez critique, et aujourd'hui j'aimerais qu'on me donne la critique et la raison pour laquelle les pros n'ont pas le droit de faire du cyclocross, et j'aimerais vraiment la savoir.
Il y a peut-être aussi un risque de blessure si tu colles, justement, même sans aucune pression, un Froome sur un cyclocross et qu'il se déglingue un fémur ou une épaule. Bon, évidemment, il n'a pas besoin de ça maintenant pour foirer sa saison. Mais peut-être qu'aussi, il y a peut-être, justement, en étant mauvais techniquement, les mecs n'ont pas envie d'aller se fracasser l'hiver. Et peut-être faire des
techniques
chez eux.
Entre tomber à 20 à l'heure dans l'herbe et aller en stage en Espagne, en groupe de 8, où on est au contact des voitures, où il y a plus d'accidents et plus de risques, à l'image de ce qui s'est passé avec Degenkolb et Barguil, moi je pense que c'est bien plus facile et c'est bien meilleur d'aller effectivement rouler dans un champ à 15 à l'heure. S'il y a une chute, on sera beaucoup moins mal et au moins on apprend le métier. Quoi. C'est comme quand on a un an et qu'on essaye de marcher, hein, on casse la gueule, il faut se relever.
Ouais. Eh bien justement, tu as fait la transition parfaite. Et toi, la technique, est-ce que tu la travailles toujours? Comment tu la travailles?
Oui, je la travaille particulièrement au mois de juillet, au mois d'août. Parce que une fois que la saison de cyclocross est terminée, bien souvent, février-mars, je fais rien. C'est vraiment de me reposer, de profiter des miens et de faire d'autres activités, du foot, du tennis, d'autres sports que je ne peux pas me permettre de faire hors saison. Du coup, la technique se perd assez vite. Mais en quelques séances, on se rend compte que ça revient assez vite. Donc voilà, il y a beaucoup de VTT, il y a des séances, des passages de planche, un petit peu de course à pied à faire entre juillet et août. Et j'ai envie de dire que je suis issu de l'école de cyclisme, donc à l'âge de 6 ans, je passais déjà dans les quilles, je m'amusais déjà à sauter les trottoirs et à sauter les boîtes de chaussures. Donc c'est comme un footballeur qui naît avec un ballon, c'est presque inné. Et forcément, j'ai dit, Sans me mettre en avant, j'ai des prédispositions assez simples, donc ça revient très très vite et c'est pas quelque chose que je travaille énormément.
Hier, je suis tombé sur une vidéo sur Facebook, je pourrais la retrouver aisément. On voyait un petit garçon, genre 7-8 ans, qui faisait le parcours classique de l'école de cyclisme, tu sais, avec les quilles, poser un bidon, le reprendre, faire le petit truc. Est-ce que tu trouves que ça manque déjà chez les jeunes et surtout chez les plus âgés qui découvrent le vélo sur le tard? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire?
Moi, j'ai eu la chance de faire les championnats de France des écoles de cyclisme. Et d'ailleurs, j'avais remporté l'épreuve d'adresse, les Gymkhana à Salon-de-Provence. C'était en pupille en 1993. Et pour moi, c'est l'école de cyclisme. C'est ce qui me permet d'être aujourd'hui agile sur mon vélo. C'est ce qui me permet de sauter un trottoir et de rouler dans la circulation parisienne sans aucune crainte de passer un terre-plein ou de faire un freinage d'urgence, voire même de ramasser un caillou ou le dégager avec ma roue avant si c'est nécessaire. Donc oui, effectivement, je pense que l'agilité, l'habilité sur un vélo, c'est primordial, et encore plus au haut niveau. Mais malheureusement, aujourd'hui, on privilégie le travail physique, on essaye de faire gonfler le moteur, comme on dit aux gamins, dès le plus jeune âge. Or, rouler en peloton, ça s'apprend, frotter, ça s'apprend, faire un chrono par équipe, ça s'apprend, tenir une position avec un vélo de chrono, ça s'apprend. Et malheureusement, on le laisse un petit peu de côté en se disant ouais, « ça, normalement, c'est inné ou pas ». Mais non, c'est pas inné, ça se travaille, tout se travaille.
Et justement, quels conseils tu donnerais ou quels exercices tu aimes faire pratiquer, par exemple, aux coureurs que tu encadres, tu leur conseilles quoi pour pour continuer à progresser ou développer la technique ou que sais-je?
Bah, moi déjà j'encadre très très peu de novices. En général, je suis plutôt encadré avec des athlètes de haut niveau parce que c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Donc après, quand un athlète de haut niveau me demande comment progresser ou comment faire tel ou tel exercice, pour moi le meilleur des travails, c'est l'observation, c'est se filmer, essayer d'avoir un recul sur ce qu'on fait, les erreurs qu'on fait pour essayer de les corriger. Moi, je suis admiratif de ce que fait Van Der Poel au niveau de la technique. Et du coup, j'essaye de voir avec quel engagement il y va, quelle est sa position. Je suis plutôt je cherche le détail qui me permettra d'être très propre et très juste dans mon travail technique. Après, la meilleure des solutions, c'est de faire un passage, deux passages, trois passages, cinq passages, 20 passages, 100 passages, 2000 passages, pour que à la fin on y arrive. Et c'est comme tout, la persévérance, à un moment donné, elle paye, quoi. Donc, au début, quand je m'entraînais à passer les planches, comme je disais tout à l'heure, je m'amusais à passer des boîtes de chaussures pour être type de casser les roues. Une boîte de chaussures, ça fait à peine 20 cm. Et puis après, je mettais une petite cale en dessous et puis ça faisait 22. Et aujourd'hui, je passe 40, 45 cm sans aucun problème. Mais ça, forcément, c'est à tâtons qu'on y va et c'est pas dingue.
Par exemple, si on prend une route pavée, que tu connais très très bien, ou un chemin un petit peu cassant sur lequel on va rebondir, moi par exemple, j'ai du mal à parfois à garder vraiment les fesses sur la selle et les jambes alignées, les pieds alignés. Et j'ai tendance, tu vois, à appuyer plus sur la pointe de pied, à écarter les genoux pour garder l'équilibre. Alors qu'on voit évidemment qu'un coureur de haut niveau, un Mathieu Van Der Poel, va rester parfaitement aligné. Est-ce que c'est normal ou est-ce que je suis vraiment trop nul? Ou est-ce qu'il y a une manière de garder davantage le contact avec la selle pour pas être en équilibre sur les jambes, parce que finalement on perd en efficacité?
Ça, c'est une question qui est très 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 générale et qui mériterait d'analyser plein de choses. Déjà, il y a la position sur le vélo qui est effectivement très très importante. Aujourd'hui, tous les coureurs connaissent parfaitement la position la mieux adaptée, celle qui correspond le mieux à la morphologie et surtout par rapport aux qualités. Ensuite, l'utilisation de tubeless, de boyaux, de pneus, de sections, de gonflage, fait que justement on rebondit plus ou moins et c'est plus facile quand on a un confort important. Et qu'on peut rester tranquillou sur son boyau arrière ou son pneu avec une super adhérence et surtout un confort, comme je l'ai dit, qui fait que c'est simple. Donc non, il n'y a pas de, y a personne qui est nul, il n'y a personne qui est bon. C'est simplement une question de trouver le juste, mais le juste à tous les niveaux, aussi bien la fréquence de pédalage que la bonne paire de roues avec la bonne position, avec le bon placement sur la selle. Et tout ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est limite, c'est au millimètre, quoi. C'est un peu comme un pilote de Formule 1 qui viendrait mettre à 250 km/h sa roue avant droite à 5 cm du terre-plein et pour passer à l'intérieur. Donc, c'est exactement la même chose en vélo.
Sur un cross, on parle souvent de l'importance des pneumatiques. Pourquoi des boyaux déjà? Et comment se fait le choix du pneumatique? Comment vous y prenez sur une Coupe de France ou sur une Coupe du Monde? Pour vous dire, bon, les mecs, les conditions, elles sont comme ci, comme ça, on va prendre cette combinaison-là.
Oui, c'est bon, mais je t'entends très très mal en fait. À chaque fois que tu poses une question, c'est, je t'entends en morse, mais.
D'accord.
Alors,
Ah,
de ce
mince.
que j'ai compris de la question, le choix des boyaux, alors pourquoi le boyau? Déjà, pour une bonne et simple raison, c'est très simple, c'est qu'en fait, en cyclocross, on est sur des pressions qui sont très très basses. Ça m'est arrivé de faire des cyclocross avec à peine un bar dans le boyau. Et effectivement, le tubeless ne tiendrait pas si je prenais un virage un peu trop serré parce qu'il se déclipserait. Et en pneu, on a un gros gros risque de pincement. Donc aujourd'hui, l'utilité du boyau, c'est vraiment à ce niveau-là. Ensuite, au niveau de l'adhérence, il n'y a pas photo. Le boyau est pour l'instant supérieur au tubeless. Et également au niveau de l'accroche, même si on va de plus en plus vers une accroche très puissante et très très bonne au niveau du tubeless, sauf qu'on perd en confort. Parce que justement, on doit rouler un petit peu surgonflé, c'est pas très agréable. Donc aujourd'hui, il n'y a rien qui va contrecarrer le boyau. Après, concernant le choix de la chape du boyau, la bande de roulement, ça dépend vraiment de la nature du terrain et du style de pilotage. Il y a beaucoup de coureurs qui sont très très agressifs au niveau du guidage, qui n'hésiteront pas à pencher et à tourner d'un coup le guidon. Donc il faudra plutôt utiliser du cran assez haut et plutôt avec un cran latéral. En revanche, il va perdre en rendement et ramener plus de goût sur le vélo si le terrain est plutôt meuble. Alors que quelqu'un qui est plutôt doux, qui prendra des trajectoires plutôt larges, avec des externes inters propres et puis une bonne maîtrise de sa vitesse, pourra utiliser un boyau avec un cran un petit peu plus loin, un petit peu plus bas, pardon, et du coup privilégier le rendement. Et lorsqu'on arrive sur une partie routière, bah, pourra mettre les watts. Et un garçon comme Antoine Benoît, par exemple, c'est un coureur qui n'aime pas trop dégonfler. Alors forcément, dans la boue, il est moins à l'aise. Mais par contre, quand il arrive sur les parties roulantes, on se dit tant à Antoine, il a une grosse force, bah, parce qu'il a pris le parti d'être meilleur sur ces parties-là. Donc il y a un compromis à trouver. Et il faut connaître absolument son style de pilotage et surtout ce qui nous plaît le plus. Moi, je fais partie des coureurs qui aiment les terrains plutôt secs et j'ai un pilotage plutôt souple et très, très fluide. Donc, j'utilise très rarement les gros crans.
Est-ce qu'il vaut mieux dépenser des milliers d'euros pour gagner 700 grammes ou essayer de perdre quelques kilos de corps de Qu'est-ce qui marche le mieux pour un coureur?
Eh ben, les deux, pour un athlète de haut niveau, aujourd'hui, j'ai envie de dire que les deux, effectivement. Moi, je fais pas trop attention à ce que je mange, mais j'ai une génétique plutôt bien faite. Je suis affûté quasiment toute l'année. J'ai jamais eu de problème de poids. Donc, du coup, je vais chercher aussi les 700 grammes quand je peux aller les chercher sur mon vélo. Mais effectivement, je pense qu'entre un coureur qui fait 85 kilos et qui a 15% de matière grasse et qui a un vélo à 7 kilos, et un autre coureur qui fait 100 kilos et qui a un vélo à 6 kilos et qui a 25% de matière grasse, j'ai envie de dire, mais c'est quand même dommage d'avoir investi 10 000 euros dans un vélo super léger, alors qu'un petit régime et un petit peu moins d'alcool et d'apéro te ferait perdre 10 kilos et tu te sentirais mieux. Donc non, c'est pas une question bête, mais après, il y a aussi la notion de plaisir. Quand on achète du beau matériel et du matériel léger, voilà, c'est comme un mec qui ne saurait pas piloter forcément une voiture, mais qui s'achèterait une Ferrari avec 580 chevaux sous le capot, alors qu'il n'a pas l'air de rouler à plus de 130 sur l'autoroute. On aime les belles choses et le beau matériel. Donc, mais des fois, je me pose la question si le coureur qui fait 100 kilos ou 90 kilos n'a pas tendance à penser que parce qu'il a un vélo léger, il va avancer vite. Non, c'est pas le vélo qui fait avancer, hein. C'est les jambes et c'est le rapport poids-puissance.
C'est quoi le rapport poids-puissance ?
Le rapport poids-puissance, c'est ça, c'est la force qu'on développe sur la pédale, sachant que si on doit appuyer à 400 watts sur la pédale, mais qu'on fait 100 kilos, on ira beaucoup moins vite qu'un même coureur qui appuie à 400 watts sur la pédale et qui fait 70 kilos. C'est cette vitesse de projection qui fait que c'est le ratio poids-puissance qui est le plus important. Il y a des coureurs, des fois on leur parle, on dit « Ah, il a fait… j'ai une PMA à 480 watts, mais ça veut absolument rien dire. Au contraire, d'un petit grimpeur qui ferait 48 kilos, qui va dire, moi, j'ai une PMA de 380 watts, ce sera lui le meilleur grimpeur.
À quoi va ressembler ton régime alimentaire quand tu vas rentrer vraiment en mode saison cyclocross?
Moi, je ne fais pas de régime alimentaire. Je mange de tout en bonne quantité, mais c'est vrai que je ne suis pas fan des sodas. J'aime pas trop les fast food, même si de temps en temps un petit McDo avec les gamins c'est aussi essentiel pour la sociabilité, j'ai envie de dire, et pour faire plaisir aux gosses. Je suis pas fan non plus de choses dites d'apéro et de chips, etc. Donc en fait je suis quelqu'un de très très simple. Je bois pas d'alcool parce que j'aime pas ça. Pour autant, je pense que boire un verre de vin de temps en temps, c'est pas la fin du monde. Mais effectivement, j'ai une hygiène de vie plutôt saine, mais qui ne me demande pas d'effort. Donc, je suis plutôt chanceux parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de coureurs qui aiment la bière, qui aiment le vin. Et on se rend compte aujourd'hui que l'hygiène de vie, c'est super important. Et c'est ce qui fait la différence au très haut niveau. Ouais.
La Gravel Rock, c'était bien ou pas? Ça va, t'as compris là?
Là, j'ai compris peut-être là, voilà.
La Gravel Rock, est-ce que c'était
bien? Ah, Gravel Rock, ouais, ok, voilà. ouais.
C'était bien ou pas? Est-ce que tu peux m'en parler en détail?
Oui, c'est une très très belle épreuve. Je suis très 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 content d'être ambassadeur Canyon et de pouvoir rouler justement avec le Grail de chez Canyon, parce que c'est un vélo vraiment typé pour le gravel. Après, dans l'esprit, c'est vrai que c'est pas forcément l'esprit compétition qui règne lorsqu'on achète un vélo de ce type-là. Mais du coup, j'ai la chance de pouvoir bénéficier du haut de gamme avec un super groupe des deux, d'avoir les roues Mavic également équipées de tubeless en 42. Et puis forcément, ce cintre qui fait tant parler, parce que c'est un cintre super confortable, mais qui renvoie énormément d'énergie lorsqu'on est sur la route, etc. La géométrie du cadre fait que c'est pareil, c'est plutôt très à l'aise, très confortable, mais pour autant, lorsqu'on appuie sur les pédales, ça renvoie plutôt sur la route. Moi, au final, ce qui me marque le plus, justement, sur le Roc, c'est de se rendre compte que c'est un terrain qui est très, 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 très cassant, malgré tout, parce que je pense qu'il y a très, très peu de gens qui s'aventureraient dans des chemins aussi cassants avec un vélo, j'ai envie de dire, sans suspension. Et finalement, avec le Grail, en deux éditions, j'ai jamais crevé. Je finis le Roc, j'ai pas le dos en vrac, je suis plutôt à l'aise et c'est ça qui est fou, c'est de se dire qu'un vélo quasiment route, on peut passer partout dans les chemins et finalement se mettre aucune barrière de pratique quoi.
Est-ce que ça veut dire, si tu aimes vraiment le gravel, que on a une chance de te voir passer au gravel longue distance un petit peu comme Ted King qui était chez Calendal? Qui fait maintenant beaucoup de longues distances gravel aux États-Unis, où on pense aussi à Chavanel qui s'est fait un raid VTT récemment. Est-ce qu'on a une chance de te voir sur ce type d'épreuve?
Ouais, c'est une nouvelle pratique. Le gravel, c'est une nouvelle pratique. Après, ça vient des États-Unis, mais parce que les États-Unis, ils ont beaucoup de routes qui ne sont pas goudronnées et qui n'ont pas forcément les enrobés que nous, on a. Je ne sais pas si ça va prendre plus que ça. Je pense que si les marques se sont engouffrées dedans, c'est qu'il y a un marché à prendre, c'est qu'il y a une nouvelle pratique à aller chercher. Moi, je suis un adepte, mais encore une fois, est-ce que la pratique ne va pas être plutôt une pratique loisir plutôt qu'une pratique de compétition? Moi, j'aurais tendance à dire que ce serait top que ce soit une pratique de compétition, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de chemins qui sont très sympas à faire, qui sont très roulants. Et l'idée de faire du 70-30, 70% de chemin, 30% sur route, fait que c'est pas avec un VTT qu'on gagnerait la course. Après, je sais pas du tout. Le Roc d'Azur et le Roc Gravel, ça fait seulement deux saisons que ça a lieu. Pour l'instant, c'est pas non plus 1500, 2000 participants. C'est pas un truc de fou, mais ça prend. Donc, à voir. Moi, ce qui me fait espérer que c'est une bonne discipline, c'est justement le fait que les marques s'intéressent au marché.
Et donc justement, aller un petit peu dans d'autres pays, bon, peut-être que tu en as marre de voyager aussi éventuellement, mais tu vois, par exemple, tu parlais d'une course avec 70 trans, donc 70 d'enrobés et 30 de chemin. Il y a quelques semaines, aux États-Unis, au sud de la Californie, il y avait une épreuve qui s'appelle The Belgian Waffle, et c'est exactement ça, je crois que c'est 250 km avec 30% de chemin, ça pourrait t'éclater ça, non?
Ouais, alors je pense qu'aux États-Unis, la pratique gravel est bien plus possible qu'en France, parce que comme je l'ai dit, j'ai eu la chance d'aller deux fois aux États-Unis pour les Coupes du Monde de cyclocross, et effectivement, les chemins empierrés et les choses font qu'on a une meilleure pratique là-bas et que c'est plus simple à faire. Après, peut-être se rapprocher du système-là avec des très très longues étapes, avec en itinérance, pourquoi pas avec des spéciales chronométrées, ça pourrait être une idée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de changer un petit peu de discipline. Les gens ont besoin de faire autre chose que de la route, parce que à force, on s'ennuie. Et puis, un élément hyper important à rappeler, c'est qu'aujourd'hui, la route, c'est de plus en plus dangereux. Il y a de plus en plus d'accidents. Il y a de plus en plus de gens qui ont la haine des cyclistes et qui n'aiment pas qu'on partage la route avec eux, alors que la pratique de gravel est bien plus sécurisante. Et du coup, je pense que là-dessus, ça peut amener une pratique à ce que justement, même les jeunes de 14, 15, 16 ans, les parents leur disent va dans les chemins. Et aujourd'hui, ils pratiquent le VTT, mais pourquoi pas dans quelques années le gravel? J'ai rien compris.
D'accord. Est-ce que tu peux revenir sur ta saison passée de cyclocross? Ça s'est passé comment?
Ma saison passée, ok.
Ouais, de cross.
De cyclocross, ouais. Écoute, ça a été une saison un petit peu difficile parce que. Déjà, j'avais le maillot de champion de France sur les épaules. C'était la première fois que je l'avais en élite. Donc, il y avait un petit peu de pression sur chaque course. J'étais attendu et moi-même, j'attendais énormément de cette saison pour essayer encore une fois de progresser. J'ai réalisé très, très rapidement un premier top 10 en Coupe du Monde. C'était à Berne, en Suisse, qui m'a un petit peu qui m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir sur la suite de la saison. Du coup, je me suis fixé des objectifs qui étaient bien trop élevés par rapport à mon potentiel physique et surtout à mon potentiel psychologique. L'année dernière, il y a eu pas mal de choses qui sont créées dans le team. Il y a eu beaucoup de petits soucis à régler. Et en fait, moi, je suis quelqu'un d'entier. Du coup, j'ai pas pu me concentrer à 100% sur ma pratique de la compétition. Alors, j'ai passé un mois de janvier très, 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 très compliqué. J'ai pris une vraie volée, une vraie danse, comme on dit au Championnat de France. j'ai été au championnat du monde alors que j'avais fait 10e l'année d'avant, j'ai terminé au-delà de la 20e place, donc c'était très compliqué pour moi aussi à accepter. Donc du coup, j'ai pris les bonnes décisions, et la bonne décision, ça a été de renforcer mon staff et de me fixer encore plus cette casquette de coureur sur la tête dès le 1er septembre pour justement pouvoir me concentrer à 100% et redevenir le cyclocrossman que j'étais en 2017-2018, à savoir celui qui fait toujours le premier français en Coupe du Monde entre 9 et 15 et puis qui a été chercher le titre de champion de France surtout.
Tu peux en parler un petit peu de ta casquette de manager? Elle s'arrête quand, cette casquette de manager?
Tu veux que je te parle de
ta casquette de manager?
Ah, de manager?
Ouais.
Ben écoute, manager, c'est quasiment toute l'année de toute façon, hein, y a pas photo. Moi, je suis en contact avec les marques quasiment en permanence, avec les partenaires techniques, avec les partenaires financiers également, ceux qui nous fournissent le nécessaire, le cash pour pouvoir se déplacer et payer un petit peu notre staff et puis payer les déplacements surtout. Donc, la casquette là, c'est avoir le téléphone tout le temps branché. Et c'est compliqué, hein, parce que on est le téléphone, il est branché le matin 7h jusqu'au soir 23h et finalement il n'y a pas d'horaire où on dit non, je te réponds pas. Il y a beaucoup de rendez-vous à prendre, beaucoup de comptes à rendre un petit peu, même si on est une toute petite, on est un petit team hein, quand même malgré tout. Donc il y a pas de souci là-dessus. Et du coup, ça prend pas mal de temps. C'est un petit peu de stress, essayer de connaître au mieux les coureurs. Qu'est-ce qui les intéresse le plus? Pourquoi ils veulent ça? Essayer de les guider au mieux pour pouvoir guider ma machine, ma petite entreprise, comme me dirait mon père, et essayer des émotions. L'objectif d'un team manager, c'est évidemment de faire ce qu'il aime. Mais moi, mon objectif prioritaire, c'est que l'ensemble de mes coureurs se sentent bien, l'ensemble de mes coureurs puissent donner leur maximum et qu'on vive de grandes émotions. Parce que moi, aujourd'hui, le cyclocross, c'est ce qui me plaît le plus, c'est que je vis des émotions grâce à ça.
J'ai vu également que tu vas organiser une épreuve. Tu peux en parler davantage?
Oui, on organise deux épreuves à Vittel, le 28 et le 29 septembre. Ben, en fait, on veut rendre un petit peu au cyclocross et à tous les coureurs ce qu'on vit durant l'hiver. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de coureurs qui se plaignent, qu'il y a de moins en moins de courses. Et en fait, c'est ces coureurs-là qui se plaignent, c'est ceux qui font rien. Moi, j'ai jamais été du genre à me plaindre. Mais je me dis que ce serait bien de renvoyer la balle justement et de ne pas être juste un consommateur de compétition. Alors oui, on va être consommateur de compétition pendant 25 week-ends. Et si on peut prendre un week-end pour être organisateur, je pense que le cyclocross s'en sortirait à merveille. Et c'est vrai que on a la chance d'avoir une ville comme Vittel qui nous suit, qui a, j'ai envie de dire, répondu à nos attentes, d'être candidat à une Coupe du Monde dans 4 ans. Donc c'est génial. Donc ça demande encore du boulot, encore l'administratif, encore des déplacements, encore du téléphone, encore du mail. Mais c'est pour la bonne cause et c'est pour ce que j'aime. Donc je le fais avec grand plaisir. Mais c'est vrai que par moments, c'est fatigant. Et du coup, on espère faire une très, très belle édition cette année. Et puis surtout, arriver en 2022 avec vraiment cette Coupe du Monde à Vittel et qui serait magnifique.